Donc, merci d'être ici avec nous pour nous écouter, pour écouter nos quatre amis intervenir sur le thème suivant, la fantaisie face à l'histoire. Alors, nous allons pouvoir faire animer ce excusez-moi, nous allons pouvoir démarrer ce débat. Là, il faut que je me mette en route, ça y est. Avec quatre auteurs qui ont des parcours assez intéressants tous. Tout d'abord, on va commencer par tout au bout, le plus loin de moi, Lionel Davoust, qui est un des auteurs assez récents, puisqu'après avoir écrit beaucoup de nouvelles dans l'intention totalement avouée d'apprendre son métier d'écrivain, il vient de publier deux romans de fantasy, La volonté du dragon aux éditions Critique, et si je me souviens bien, Léviathan, le tome 1 de Léviathan, La chute, chez Don Quichotte. Alors là, j'ai mis les livres sur la table, comme ça, pas trop de mémoire ce matin. On a avec nous un auteur déjà bien installé, Pierre Pével, qui a commencé à arriver dans le métier de manière un petit peu tonitruante avec le cycle de Wildstatt, et puis qui a publié récemment Les Lames du Cardinal également, hein, qui sont. Bon, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a un côté très historique dans sa fantaisie et digestion du roman d'aventure français du 19e siècle qui est tout à fait sympathique. Mathieu Gaborit, alors lui qui a un parcours encore totalement à part, puisque après avoir écrit beaucoup, beaucoup pendant quelques années, entre autres autour d'univers de jeux de rôle, on l'a vu totalement disparaître de la surface de la littérature, pour revenir vers nous cette année avec la Chronique du Soupir publiée au Préaux-Clercq, qui est encore un roman de fantasy, bien évidemment, et Laurent Cloetzer. Qui est avec nous aussi, qui lui publie, j'allais dire parfois par éclipse, hein, on peut attendre quelques années pour avoir un nouveau roman, ça a été le cas du Royaume blessé par exemple, et qui a écrit récemment en coécriture Clear, un recueil de textes de fantasy contemporain, on peut le dire comme ça. Voilà, donc on a quatre personnes qui sont avec nous pour nous parler de la fantasy face à l'histoire. Ce qui est intéressant dans le débat que nous devons mener, c'est que le terme histoire est à prendre à double sens, puisque l'histoire, c'est à la fois celle qui a eu lieu, celle qui s'est déroulée dans le passé, et donc on va pouvoir parler de tout ça avec ces messieurs, et celle qui est en train de s'écrire, donc la fantaisie contemporaine. Moi, j'ai envie de commencer par poser la question évidemment, à toute la tablée, à toute l'assemblée, sur la fantaisie, celle du passé. Pourquoi a-t-on envie d'écrire qui se déroule dans le passé, pas forcément dans le présent, et surtout, quel est le choix de l'époque? Qu'est-ce qui vous motive dans le choix de l'époque? Qu'est-ce qui fait que vous vous projetiez plutôt au XVe siècle, au XVIIe siècle, au XIXe siècle? Je vais peut-être commencer par Pierre Pével. Parce que là, les Lames du Cardinal, par exemple, on a peut-être une belle réponse à avoir.
Ah ben moi, c'est Dumas, Les Trois Mousquetaires. S'il n'y a aucun doute, c'est lui qui a décidé pour moi, quoi. C'est mon goût pour Alexandre Dumas en général et le roman des Trois Mousquetaires en particulier, qui a fait que j'ai situé les aventures des Lames du Cardinal au début du XVIIe siècle dans la France de Richelieu, de Louis XIII et donc de D'Artagnan. Je précise, le D'Artagnan de Dumas, pas le D'Artagnan historique. Puisque j'ai aussi pris le parti pris de traiter l'histoire comme un contexte, avec un contexte aussi rigoureux que possible, mais de considérer les personnages mythologiques d'Alexandre Dumas comme des personnages historiques. Je traite Athos, Porthos, exactement comme je traite Louis XIII ou la Duchesse de Chevreuse. C'était un parti pris que j'avais. Du coup, le D'Artagnan qui apparaît chez moi au détour d'un chapitre, c'est le D'Artagnan de Dumas. Que je traite avec le même sérieux et en respectant vraiment la biographie que lui a imaginée Alexandre Dumas plutôt que le D'Artagnan historique.
D'accord. Mathieu, pardon. C'est intéressant ce que vient de dire Pierre, puisqu'on est en train de parler de l'utilisation de la fiction pour nourrir ses propres livres et d'approche rigoureuse de l'histoire. Donc toi, quand tu écris tes livres, tu te projettes systématiquement dans le passé. Recherche historique ou pas? Utilisation rigoureuse ou pas?
Alors,
comment abordes-tu les choses?
Non, moi, la référence historique, donc le médiéval, pour moi, c'est de l'ordre de l'inconscient collectif. C'est-à-dire que j'ai quelques notions médiévales qui sont assujetties à ce que je vis dans le jeu de rôle, par exemple. Mais je ne veux surtout pas m'encombrer d'un bagage réaliste. liée à l'époque médiévale, parce que je pense que c'est quelque chose qui va précisément décaler le regard sur une fantasy, sur une féerie, voire même une poésie. Donc je cherche en fait les détails qui sont susceptibles de servir l'histoire, mais je ne veux surtout pas dire, je veux être fidèle à une histoire. Parce que précisément, après, on va venir vous voir en disant, mais tu sais, à l'époque médiévale, c'était que des forêts, etc. On s'en fout, royalement, on s'en fout. L'enjeu, c'est de dire, on est sur cet inconscient collectif, c'est celui de l'époque médiévale, donc on est sur une limpidité absolue de l'époque, parce qu'on sait tous ce à quoi ressemble l'époque médiévale. On vient même avec sa cohorte de rêves à ce sujet. Et je trouve que c'est elle, moi, que j'aime convoquer. C'est-à-dire que je convoque celle du lecteur et je parle de la mienne. Et c'est cette histoire-là qui, finalement, m'intéresse.
D'accord. Tu as peur que le côté utilisation rigoureuse de recherche historique pourrait un petit peu assécher ce côté inventif.
Je trouve que c'est précisément pas l'enjeu d'un roman de fantasy de vouloir être fidèle à une histoire, à notre histoire, parce que la proposition pour moi de la fantasy, c'est précisément de susciter l'imaginaire. Donc à compter du moment où on veut faire un vrai roman historique à l'époque médiévale, il y a des gens qui le font très bien. Les Piliers de la Terre, par exemple, pour moi, c'est un vrai roman historique qui va aller puiser dans cette histoire. Mais la mienne, elle m'intéresse à compter du moment où elle est une mythologie.
D'accord. Si d'autres personnes ont envie de réagir, vous y allez ?
Parce que non, moi je pense comme le garçon.
Oui, je vois là aussi. Enfin, on va peut-être écouter Laurent d'abord.
Moi j'ai une relation plus un peu entre les deux en fait. C'est ça qui est, je trouve, intéressant. C'est-à-dire que j'ai un vrai goût et un vrai intérêt pour l'histoire. Depuis tout petit, pour les personnages historiques, pour certaines situations, et pour les rêves que ça suscite. Mais je suis bien trop intimidé par le cadre historique, par le fait de construire des références rigoureuses. En fait, un peu comme Mathieu, je dis ce qui m'intéresse, c'est le fantasme, c'est ce que ça suscite. Mais pas obligatoirement seulement le médiéval, l'histoire antique, le 16e, le 17e, enfin, toutes ces vraiment de nombreuses époques. Et je me situe plutôt dans la lignée de Robert Howard. Dans le sens, Robert Howard, quand il a commencé à écrire des nouvelles d'aventure, il les a situées dans des contextes historiques. Et il faisait des recherches, avec toute la difficulté que ça impliquait quand on vivait au Texas dans les années 20, c'est-à-dire pour se procurer des bouquins et pour avoir des références sérieuses. Donc il faisait beaucoup de recherches sur l'histoire antique, sur tout ça, puis il écrivait ses histoires en se cassant là-dedans. Puis un jour, il s'est dit, non, mais là, ça va pas, c'est trop dur, puis de toute façon, c'est pas exactement ce que je veux faire. Alors il a composé un monde où il a pris les époques qu'il aimait bien, un peu d'Assyrien, un peu d'Égyptien, un peu de médiéval, tout ça. Et dedans, il a fait naître Conan. Voilà, et c'est pour lui, on voit bien que l'histoire, c'est une matière, c'est une source de fantasmes, et c'est quelque chose qu'il a brûlé pour créer ces histoires, mais qui n'était pas un cadre rigoureux, une source, mais pas un cadre.
Oui, non, moi je suis tout à fait d'accord aussi, en particulier avec Mathieu, que alors c'est rigolo que tu disais que Léviathan est un roman de fantasy, sachant que la couverture indique thriller. Mais moi c'est une étiquette qui me va très bien parce que c'est un genre que j'aime beaucoup.
Mais nous on sait que c'est de la fantasy.
Oui, bah, c'est du thriller ésotérique où l'ésotérisme fonctionne, donc à partir de là il y a un peu de magie, donc quelque part, même si c'est contemporain, ça s'inscrit plus dans la fantasy urbaine. Mais bon, les deux étiquettes me vont très bien. Moi, sachant que j'ai jamais été très à l'aise avec les étiquettes. Sur la question plus particulière, je trouve que juste effectivement, un des intérêts de la fantasy, c'est de pouvoir, comme le disait Mathieu très bien, convoquer le rêve dans l'univers des Vanégires avec la volonté du dragon. Moi, c'est ce qui m'amuse. Je pense que c'est justement une des libertés que la fantasy permet, c'est de créer un monde de toutes pièces, d'essayer de lui donner une vraisemblance historique, même si on est tout seul face à essayer de mimer l'histoire de plusieurs millions d'êtres humains qui sont passés sur la Terre. Donc c'est un peu une gageure, mais c'est aussi l'intérêt du truc. Dans Evanégir, c'est ce qu'effectivement je m'amuse à faire avec l'antiquité un peu romaine, une espèce d'empire romain fantasmé, mais qui aurait découvert, mettons, l'arme nucléaire. Dans Léviathan, là, il y a plus une recherche de tentative de s'inscrire plus dans le contexte historique des mythologies et des traditions ésotériques et d'essayer de mettre ça dans le contexte actuel. Donc il y a un peu les deux.
Et justement, ça apporte quoi de positionner justement tout cet imaginaire-là dans un contexte actuel, puisque là, on a Laurent et toi qui faites ça apporte quoi de différent du contexte historique ? Ou de moins, de plus ? Enfin, c'est quoi la...
Moi, à la base, j'avais vraiment l'envie de parler d'un roman qui se passerait à notre époque. Oui. Et qui...
Parce qu'il y a une réflexion sur l'histoire de notre société.
Bah, c'est de façon purement mécanique, au niveau de la technique de narration, à partir du moment où l'on part d'une histoire qui se situe dans notre monde, à mon avis, hein. En tout cas dans mon cas, donc dans du contemporain, puisque ça se passe aujourd'hui en 2011, c'est même une légère anticipation vu que ça se passe en décembre, donc le monde serait sympathique de ne pas finir d'ici là, sinon je vais avoir l'air stupide.
T'auras d'autres soucis.
Donc il faut que le contexte, pour emmener le lecteur dans un, à partir du moment où on se base sur le contexte contemporain, pour emmener le lecteur dans une histoire où il va y avoir des failles qui vont apparaître dans la réalité, pour moi il faut que les faits sur lesquels on s'appuie soient les plus solides et les plus recherchés et vraisemblables possibles pour que le lecteur puisse croire ensuite et accepte de suspendre son incrédulité pour quand il va partir dans une réflexion plus imaginaire. Donc il faut que ce soit, que les faits historiques soient ancrés au maximum. Donc le premier intérêt, tout simplement, il est purement mécaniste, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le lecteur croirait que je raconte à un moment qu'il y a une femme qui maîtrise à elle toute seule une escouade des SWAT et fait une chute de 5 étages et qui en réchappe. Pour qu'il puisse croire à ça, bah, il faut que je sois vraisemblable sur le contexte historique, sur comment Los Angeles fonctionne, etc. C'est la base.
Moi, j'étais confronté... D'abord, j'ai eu une intuition, mais il semble que j'ai l'impression qu'elle s'est vérifiée par l'expérience. C'est que je suis assez convaincu que, en fait, la rigueur du contexte historique, le sérieux de la reconstitution ou de l'évocation, aide à faire passer ce qui relève de la fantasy. En tout cas, chez moi, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. Et en gros, c'est parce que le lecteur me sent rigoureux sur l'architecture, le contexte social, la description de Paris de l'époque, de sa géographie, de sa saleté, de son organisation sociale, fait que lorsque les éléments de fantasy, en l'occurrence les dragons ou les dragonnets, arrivent, c'est presque comme si par contagion il prenait une forme de légitimité et de véracité. C'est assez étonnant, mais c'est un procédé qui est finalement très très efficace. Et surtout que lorsque je décris ou lorsque je mets en scène, j'explique pas plus les dragons que je me sens obligé d'expliquer que ce que c'est qu'un pavé dans la rue, quoi. Je dis les rues sont pavées et il y a des dragons, avec un même niveau d'évidence qui, je crois, s'impose à la lecture, au final. Donc la reconstitution historique, d'une certaine manière, elle peut soutenir l'évocation de la fantaisie, du rêve, de l'imaginaire. C'est peut-être un équilibre difficile à trouver. C'est aussi une question de savoir où on met le curseur. Pour une autre de mes séries, Les Enchantements d'Ambremer, qui se passe à la Belle Époque, je voulais justement avoir un Paris de la Belle Époque qui soit assez... cliché finalement, folklorique tel qu'on l'imagine, tel que moi j'en avais des souvenirs grâce à la série des Brigades du Tigre ou ma lecture d'Arsène Lupin, etc. Donc j'ai fait attention, en fait, là en l'occurrence, de ne pas faire trop de recherches historiques. J'ai pris beaucoup d'iconographies, beaucoup de photos, j'ai regardé ce qui me plaisait, ce qui était joli, ce qui me semblait être évocateur. Mais je me suis bien gardé de faire trop de recherches précises parce que là je me suis dit... je veux pas, surtout que je voulais avoir vraiment un Paris de la Belle Époque fantasmé. Dans les Enchantements d'Ambremer, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas d'anarchistes, il n'y a pas de misère humaine, il n'y a pas une prostitution sordide, alors que c'était pourtant bien la vérité. Voilà, par exemple. Donc, en fait, la recherche, elle doit nous aider, mais elle ne doit surtout pas nous handicaper. Tout dépend du projet, en fait.
Et ouais, puis avoir un personnage qui s'appelle Louis Denisard, Hippolyte Griffon, c'est quand même vachement classe.
C'est presque ce qui est le plus difficile à trouver, les noms de personnages, je trouve.
Je vais rajouter quelque chose, c'est que ce que tu dis, c'est que tu parles de véracité, tu parles d'évidence. Et c'est vrai que quand tu parles de cette histoire de curseur, je trouve que c'est très important de conserver une authenticité, voire même une naïveté ou une candeur vis-à-vis du regard qu'on a, nous, l'auteur, qu'a l'auteur, sur cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand même, pour peu qu'on veuille exprimer quelque chose d'authentique, il faut conserver un regard même parfois faussé sur cette histoire. Donc on convoque là toutes les images qui nous habitent sur cette époque, etc. Et je trouve que c'est ça, quand tu parles de folklore ou de clichés, c'est très important que toi, tu nous parles de ton folklore. Et ça, c'est essentiel, parce que j'ai vu des gens se perdre dans cette véracité historique dont on parle. C'est vraiment ça. Il y a une errance, il y a un côté labyrinthique, et à bout d'un moment, finalement, le poids de cette véracité l'emporte sur tout le reste. Et on peut se noyer dedans, quoi.
Et une petite précision, quand tu dis des gens se perdent, tu penses à quel type de roman, par exemple, pour cette noyade dans, dans le détail historique.
C'est-à-dire que demain, si demain je me mets devant ma feuille et que je parle par exemple d'un archer, si je commence à parler de la force de traction à l'époque, du poids de l'arc, la manière dont je vais bander cet arc en fonction de la courbe, etc., tout le monde s'en contrefiche. Enfin, je veux dire, c'est pas l'enjeu de ce roman-là. Les histoires de pavés, de quelle matière, d'où ils viennent, etc. Je pense pas que ce soit quelque chose qui assoie une crédibilité. Ce qui assoie la crédibilité, c'est précisément d'aller chercher ce regard sur cet univers et en quoi c'est important pour l'histoire. Le reste, ce sont des détails qui noient.
Je suis pas certain que Lionel Davoust soit tout à fait d'accord.
Si, au contraire, c'est que c'est complètement, parce qu'on en a beaucoup parlé pendant les 4 jours, et puis l'affiche en est l'exemple, c'est clairement au cœur de la dynamique d'un genre comme le steampunk, où Greg Broadmore disait il y a 2 jours, le steampunk finalement, qu'est-ce que c'est? On met des machines à vapeur, on met des engrenages sur tout, on prend des pistolets à rayons, tout ça pourquoi? Parce que c'est cool. Et que je pense que ça fait partie d'un des plaisirs au cœur de la fantasy du genre et de la lecture. On lit ça parce que c'est cool, parce que c'est fun et parce qu'on s'éclate. Et je pense que c'est un peu au cœur du truc, finalement.
Oui. Je vais essayer de faire parler Laurent, quand même.
Ouais, moi, je trouve que c'est une... Enfin, le cool est un but esthétique un peu faible, je trouve. Mais, enfin, en fait, je pense qu'avec... Enfin, voilà... Je pense que je suis plus Mathieu qui dit qu'il cherche la fraîcheur, la sincérité du regard sur l'époque, sur le sujet, parce que on peut faire des choses amusantes. Bon, pour moi, ça fait pas du grand art.
Non, mais à la base, je pense l'aspect cool et l'aspect fun, c'est simplement pourquoi est-ce que quand on parle d'une époque ou quand on justement, c'est qu'on a un regard amoureux sur une époque et sur un contexte.
Ouais,
je pense que c'est ça, quand Broadmore dit de façon un peu provocatrice que juste parce que c'est cool, c'est parce qu'on a cette espèce de relation très, très intime et très affectueuse vis-à-vis d'une époque et d'un contexte. Et c'est ces images-là, comme tu disais, qu'on veut convoquer. C'est ça, pour moi, que ça recouvre.
Un auteur qui fait un travail historique sur l'histoire que je trouve très intéressant, et notamment sur le lien entre l'imaginaire et l'histoire, c'est Guy Gabriel Kay. Chez lui, ça vire au procédé. Alors après, ça, j'imagine, ça a ses limites et tout ça. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a pris l'essence d'une, qui prend dans chacun de ses bouquins une époque, un contexte, qui dit mais qu'est-ce que j'aime là-dedans, qu'est-ce que ça me dit du monde, qu'est-ce que ça me dit des personnages, quelles sont les situations, les tensions dramatiques qui m'intéressent, et qui après en fait s'abstrait du contexte historique, c'est-à-dire reconstruit le monde, par exemple dans Les Lions d'Al-Rassan, je trouve un très très chouette roman d'aventure.
Sur la Reconquista.
Voilà, où il prend le contexte de la Reconquista, des musulmans, des juifs, des chrétiens. Il transpose tout ça, il reconstruit les religions, il reconstruit tout ça, mais on sent bien le rêve, comme ça. Et à la fois, le fait de s'affranchir de l'historique, ça lui permet de chercher quel est le rêve qu'il animait sur cette époque, et puis de construire un roman dessus sans être obligatoirement entravé par des enjeux plus contemporains.
Bah, le cool n'exclut pas la rigueur. Il y a Robin Hobb qui disait justement sur son travail qu'on lui posait la question, pourquoi est-ce que justement vous parlez de problèmes assez contemporains, pourquoi est-ce que vous vous placez dans un autre contexte? Elle disait parce que en prenant un autre monde, en justement faisant toute une construction de fantaisie, j'ai la garantie que le lecteur va laisser une grande partie de ses préjugés à la porte du récit et va pouvoir rentrer dedans avec un œil frais et pouvoir aborder tout un tas de thèmes et tout un tas parfois de problèmes graves et de graves questions de société, parce que la fantaisie parle aussi profondément de ça. Elle, en revenant à un certain nombre de racines mythologiques, elle nous parle finalement de questions extrêmement humaines et de questions très liées au fond de la nature humaine. Et elle disait, en prenant un contexte contemporain ou un contexte culturel chargé, je n'ai pas cette garantie. En parlant, en reconstruisant toute une civilisation, j'ai la garantie qu'il va laisser une grande partie de ses préjugés à la porte et qu'il va pouvoir aborder ces questions-là et ce récit d'un œil neuf.
Oui. Enfin, petite précision. Et d'ailleurs, de fait, il y a même un fort contenu politique chez Robin Hobb. Hein.
Ouais, mais je suis assez méfiant vis-à-vis de la fabrication d'univers, en fait. C'est quelque chose qui me... Enfin, j'ai l'impression là-dessus, je parle à des gens connaisseurs, qu'il y a une y a une influence néfaste du jeu de rôle, des choses comme ça, c'est-à-dire du goût pour la fabrication de l'univers original, pour dire « Oh, regardez comme j'ai reconstitué le truc ». Pour moi, c'est à la fois la qualité et la limite de Kay, par exemple. J'aime bien son travail, je trouve que c'est un bon romancier d'aventure, un bon romancier populaire, mais je crains qu'à travers tout le jeu de mécano, de dire « Oh, je vais reconstituer une société, et hop, il va y avoir des dieux, une histoire comme ça, et je vais tirer le truc, et je vais aller très très loin, et regardez, j'ai inventé 128 peuples, 214 noms, 15 religions, et un système de magie, oh, très 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 original !» Voilà. Ouais. Et après, pour moi, on rentre dans un espèce de jeu avec le lecteur, qu'une partie, je pense que beaucoup de lecteurs aiment bien, mais qui devient autoréférentiel et qui, au fond, dit pas grand-chose.
Oui, je pense que Laurent a tout à fait raison de dire des choses comme ça, parce que le jeu de rôle, c'est un piège. Moi, je viens du jeu de rôle, et c'est vrai que j'ai peut-être mis presque 15 ans pour dépasser ces effets rôlistiques qui consistent à dire... L'univers en soi suffit. Et c'est précisément pas le cas. C'est-à-dire que, à la fois dans l'objet livre et dans l'objet jeu de rôle, l'univers reste avant tout c'est quelques lignes de force qui infusent l'ensemble. Je vais être assez clair. Dans le dernier roman, par exemple, je suis parti du souffle. Et le souffle, à compter de ce moment-là, n'était qu'une empreinte sur le monde, une relecture du monde, qui était de dire vous avez une fée dans le cœur, et cette fée, à travers un mécanisme quasi organique, fait que votre souffle, vos soupirs, le chant, etc., est enchanté. Ça suffit. Pour moi, on a fait un monde. Et Laurent a raison, c'est-à-dire que savoir comment était la poterie dans le pays de Jbu, 500 ans, tout le monde s'en contrefout, a raison, parce que ce n'est pas l'objet de l'histoire, et on est là pour lire une histoire. Dans le jeu de rôle, c'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, travaillant sur les chroniques des Fels en adaptation jeu de rôle, j'ai pris garde et j'ai voulu en amont dire à tout le monde un univers ne suffit pas, un univers ne fait pas un jeu de rôle, un univers c'est d'abord une intention de jeu, c'est une émotion, et c'est vrai pour le roman aussi, c'est-à-dire que dans un jeu de rôle, pourquoi je joue à ce jeu-là, pourquoi je me tape un énième setup de fantasy qui finalement ressemble de près ou de loin à tous les autres. Alors vous avez plus ou moins de talent pour installer un univers, mais pour autant, ça reste un univers, donc quelque chose de statique. Et il faut mettre de la vie là-dedans, du souffle, précisément. Et je pense que le jeu de rôle, c'est ça. L'intention était de dire, on va jouer quel personnage et pourquoi on va les jouer. C'est ça qui est important, parce que c'est ça qui va réunir les gens autour d'une table et faire en sorte que cette table-là ne ressemble à aucune autre. Et cette vie-là, pour moi, elle est essentielle. Et l'univers en soi est effectivement un vrai piège, parce que, pour moi, il est réussi quand il s'efface. Ça veut dire qu'on a ces quelques lignes de force qui, pour moi, doivent rayonner à travers tous les grands piliers du monde, mais ça, c'est des choses qui s'effleurent. Et le côté dogmatique, voire encyclopédique, d'un auteur qui, tout d'un coup, va essayer de vous raconter en long et en large et en travers les us et coutumes des uns et des autres, ça n'a strictement aucun intérêt.
Il ne s'appelle pas Tolkien qui veut.
Ne s'appelle pas Tolkien qui veut, précisément. Et je finis. Simplement, typiquement, je trouve que Tolkien aujourd'hui, la lecture que j'en ai moi, c'est quelque chose qui ne m'a pas permis de créer.
Ouais. On va peut-être passer la parole tout de suite à Pierre Pével. Je pense que ne s'appuyant pas sur des univers de jeux de rôle, c'est intéressant aussi.
En fait, je pense que le problème est comparable, que ce soit qu'il s'agisse de reconstitution ou d'évocation historique ou de création d'univers. Dans un bouquin, tout doit servir l'histoire, l'intrigue. Donc en fait, de même qu'il serait extrêmement maladroit de décrire dans une période historique donnée un truc qui n'a rien à voir avec l'histoire, rien à voir avec ce que font les personnages à ce moment-là, juste pour le plaisir de la documentation et de ben, « bon Dieu, je ne me suis pas tapé 300 pages de Michelet pour rien et je vais vous les ressortir », souvent dans la fantasy, il y a le piège d'en raconter trop sur l'univers et qui n'intéresse absolument pas l'intrigue. Et qui donc a peu de chances d'intéresser vraiment le lecteur. Quoi. Dernièrement, évidemment, je ne vais pas vous dire dans quel livre c'est, mais je lisais les premières pages d'un roman de fantasy, et il y avait à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire. Quoi.
Je vous le dirai tout à l'heure, parce que moi, je vais lui demander en off.
et donc, ça commence par deux ou trois chevaliers sont convoqués par le roi. Ah, ouais, d'accord, cool, sympa, ça c'est bien, ça commence bien. Ils entrèrent dans la ville de Jbluk, bam, paragraphe sur la ville de Jbluk. Ensuite, ils rentrent dans le palais, paragraphe sur le palais. Ensuite, ils passent une porte, paragraphe sur la porte. Ils traversent un hall, paragraphe sur le hall. Ils traversent une cour, paragraphe. Et alors, avec description des statues, des dieux, etc. Donc, résultat, les mecs, ils arrivaient à la fin d'un chapitre très long. Ils n'avaient toujours pas rencontré le roi. Donc, le bouquin, physiquement, n'avait pas commencé. Hein. Mais on s'était déjà tapé des tas de descriptions et qui, en l'occurrence, n'avaient aucun intérêt. Aucun intérêt, en tout cas, à ce moment-là du livre. Peut-être que savoir qui sont les dieux ou pourquoi on a construit telle ville, ça peut être très bien à un moment donné du bouquin. Mais là, non, quoi, clairement. Donc, en fait, ça peut... les pièges que tu évoquais concernant l'univers peuvent aussi relever d'une forme de maladresse d'auteur aussi. C'est-à-dire que peut-être que son univers, il est bien fait, peut-être qu'il est intéressant, mais il est peut-être mal raconté et au mauvais moment dans l'intrigue. Quoi. Moi, j'essaye toujours de revenir à un moment ou à un autre à l'histoire. Qu'est-ce qui est utile à l'histoire ? C'est difficile de résister à la tentation. Moi, j'ai pas pu m'empêcher dans l'M2 Cardinal de mettre un moment Athos et D'Artagnan. Physiquement, c'était pas possible. Sur trois tomes, je savais que je craquerais un moment ou un autre. Par contre, ce que je m'étais promis de faire, c'est que ce soit pour des personnages historiques ou que ce soit pour des lieux intéressants dans Paris, je ne les décrirai, je ne les mettrai en scène que si ça servait l'histoire. Je décris un lieu que si les personnages le traversent et s'ils ont une bonne raison pour le traverser. Par moments, ça a été frustrant parce qu'il y avait des lieux historiquement dans Paris qui auraient pu être géniaux, très agréables à décrire. Et qui était exotique et qui aurait. Mais sauf que mes persos n'avaient rien à y faire et donc il n'y avait aucune raison que j'en parle. Quoi. De même que si à un moment Athos ou D'Artagnan interviennent, c'est parce que j'ai un de mes personnages qui est dans les mousquetaires du roi, donc il a toutes les chances de les croiser. Et bon, évidemment, à partir du moment où il a une chance que ça arrive, ça va finir par arriver. Je ne vais pas résister. Mais vraiment penser à ça. C'est qu'est-ce qui sert l'intrigue, qu'est-ce qui sert l'histoire, qu'est-ce qui est hors sujet ou qui ne l'est pas. Or, paradoxalement, l'univers d'un livre, il peut être parfaitement hors sujet dans le bouquin. Quoi.
Tu as peut-être quelque chose à dire, Laurent ? On peut revenir un peu en arrière aussi.
C'était juste, je pense que tu disais, n'est pas Tolkien qui veut. Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une ambiguïté fondamentale sur le travail de Tolkien, enfin une erreur vraiment énorme. Tout le monde dit Tolkien, c'est le créateur d'univers, c'est le gars comme ça. Mais en fait, non, Tolkien n'est pas un créateur d'univers. Tolkien ne parle pas d'un autre monde. Tolkien parle d'une autre, tout le temps. Et vraiment, c'est pour, dans sa démarche déjà, c'est-à-dire qu'il y a une démarche d'exploration de la langue. Et pour Tolkien, il n'y a pas la volonté de, il n'y a pas le fait de fabriquer un second monde, il y a la volonté de raconter le passé d'une autre à travers un travail de philologie, qui était son métier. Donc, voilà, et là, ensuite, les gens se sont dit « Oh, c'est étonnant, il a écrit des chroniques, il a fait tout ça. » Oui, il a imité, il a travaillé à partir de ce que lui connaissait des chroniques scandinaves anciennes, des généalogies, tout ça. Mais il s'inscrivait dans un genre littéraire existant. Il s'inscrivait pas du tout dans quelque chose de novateur comme ça. Mais oui, il a fait une œuvre très, très originale, mais c'est pas du tout le fabricant de quelque chose qui serait juste sorti de sa tête comme ça. C'est, donc là, il y a une vraie erreur, en fait. Et malheureusement, qu'il y a eu des répercussions.
Alors, en plus, quitte à être sacrilège, je pense que Tolkien, il n'échappe pas exactement au piège que je décris. Hein. L'herbe à pipe au début du Seigneur des Anneaux, c'est juste hors sujet et c'est juste chiant. Quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'attends que l'histoire commence. Quoi.
Ouais, c'est 57 pages.
Ah, oui, c'est quand même que c'est coquet, tu vois.
Je suis pas d'accord avec toi parce que, en fait, si on part du principe qu'il raconte un univers inventé, oui, c'est hors sujet. Mais en fait, pour moi, mais bon, maintenant, c'est un débat qui s'éloigne de celui-ci. On est en réalité dans un portrait contemporain. On est dans quelque chose qui parle de choses qu'il connaît, qui parle du monde qu'il connaît, de choses qu'il a vécues. Donc, à partir de ce moment-là, quand on lit, par exemple, les Hobbits comme un portrait des Anglais et d'une certaine campagne anglaise qui est une campagne à la fois existante et à la fois disparue, qui est celle de son passé à lui, ça, pour moi, ça a une place. Mais bon, là, on s'éloigne du sujet, et je tiens à dire un truc, c'est que moi, mon histoire de fantasy se passe dans un univers qui n'a aucun intérêt. Enfin, vraiment, je rejoins ce que dit Pierre, c'est-à-dire... En réalité, c'est un univers de jeu de rôle, c'est un univers howardien dans le sens où c'est Alors, je vais découper un royaume ici dans l'histoire, et puis un autre ici, et puis je vais mettre du scotch autour pour que ça tienne. Voilà, j'ai essayé de faire qu'il ait suffisamment de cohérence pour qu'on puisse, pour que les histoires puissent s'y dérouler. Le seul truc qui m'intéresse, c'est l'histoire qui se passe dedans. Cet univers, c'est un confort, c'est quelque chose comme ça. Mais je pense que d'un point de vue création, originalité, et tout ça, ça va absolument nulle part. Enfin, ça n'apporte rien.
Bon, cela dit, il faut que j'intervienne tout de suite. Nos amis sont tous des stylistes, particulièrement Laurent, c'est quand même un livre à lire, parce que ces livres sont quand même vachement beaux aussi, et ça nous dit plein de choses. Hein. Faut pas croire que c'est juste la manière dont il en parle de manière un petit peu...
De toute façon, d'une manière générale, l'important, moi je reviens toujours à là, c'est ce qu'on raconte. Alors ça peut être l'intrigue, le style, tout ça finalement peut être mêlé. Mais si un auteur se sent obligé d'inventer 12 guildes de magiciens pour que son bouquin ressemble à quelque chose, c'est qu'il y a une erreur au début, quoi. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le bouquin, c'est parce que là, c'est vraiment rajouter des étés dans tous les sens pour essayer que le truc tienne debout. Non, c'est la maison, elle est faussée dès le départ. Quoi.
Oui, Lionel ?
Non, je suis tout à fait d'accord. Notamment, Laurent, tu disais finalement qu'il y a une erreur avec Tolkien. On considère finalement qu'il parle d'un autre monde alors qu'il parle d'une autre. Je pense que finalement, on n'échappe jamais à ça, même en science-fiction ou dans les autres genres. Quand on prend une histoire... qui doit, je suis tout à fait d'accord, être au centre du récit et pas l'univers, parce qu'on se fiche royalement de savoir la généalogie à 15 générations du roi machin. À partir du moment où on met l'histoire au centre, et même quand on la place dans un autre décor, dans un autre monde, on ne fait jamais que parler de l'humain, et de toute façon. Et une histoire, c'est de l'humain, et c'est en cela que le roman va être intéressant. Pour moi, le monde n'est qu'une toile de fond, et la fantasy, avec les jeux historiques qu'elle autorise, permet finalement... en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens dans le monde des Vanagir avec la volonté du dragon, c'est que ça me permet en fait de mettre en scène des choses que je n'ai pas forcément vues dans l'histoire de notre monde ou que je n'ai pas forcément, ou pas forcément de la façon qui m'amusait, et d'étudier ça et de jouer avec ce thème-là dans la volonté. Moi, j'avais juste envie de mettre en scène la rencontre de la marine à voile et de la marine à vapeur qui s'est passée dans l'histoire, mais de faire cette rencontre et de réfléchir sur l'exercice du pouvoir et de la guerre à travers ça. Mais j'ai pas trouvé de contexte qui me permette vraiment de le faire d'une façon qui m'aurait intéressé et amusé pour dire ce que j'avais envie de traiter. Donc je suis parti dans un autre monde qui m'a permis de le faire.
Ah ouais, tu nous as fait 350 pages que pour ça alors.
La volonté c'est 200.
Oui, je sais, mais bon, c'était pour enjoliver les choses. Je crois l'avoir lu d'ailleurs. Donc en fait, dans un sens, vous utilisez la fantasy pour réinterpréter l'histoire ?
Moi non.
Ou pour la réinventer ?
Ah non, non, moi là, moi j'ai pas prétention du tout à parler ni de mon monde, d'avoir une thématique moderne ou un point de vue sur le monde contemporain qui passera très... Non, moi je raconte des histoires de KPDP, moi j'en reviens vraiment, vraiment beaucoup au fun factor, hein. Si je raconte l'histoire du mousquetaire, je peux toujours... Quand on me demande pourquoi j'ai écrit L'âme du cardinal, j'ai deux explications possibles. J'ai l'explication longue, cultivée, référentielle, Alexandre Dumas, début de l'âge... début de l'esprit moderne, les naissances de l'esprit scientifique, etc. Puis l'autre explication, c'est les mousquetaires, c'est fun, un escrimeur, ça a la classe, et une escrimeuse, c'est sexy, quoi. Donc, au bout d'un moment, j'en reviens quand même à ça, quoi. Moi, c'est vraiment le truc, si j'aime les mousquetaires, c'est parce que, en fait, j'aime les mousquetaires. J'ai pas...
Ouais.
Moi, la seule chose qui m'intéresse dans le fait de lire des histoires écrites maintenant sur des contextes historiques, c'est de me dire... comment en fait l'auteur, parce que qu'est-ce que l'auteur me dit des fantasmes de notre époque, de maintenant, quand il parle de ça. C'est-à-dire pourquoi il parle de ça, qu'est-ce qui l'intéresse. Enfin, j'avoue que j'ai pas beaucoup de goût pour les histoires, pour l'aventure. Enfin bon, c'est mes goûts personnels. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de dire il parle de ça et qu'est-ce qu'il au fond, qu'est-ce que ça me dit de lui ? Qu'est-ce que ça me dit de maintenant ? Pourquoi il a besoin de parler de ça maintenant ? Pourquoi il pense qu'on doit parler de la rencontre de la marine à voile ou de la marine à vapeur ou de mousquetaire avec des dragons maintenant ? Qu'est-ce que... voilà, enfin moi, Et c'est ça qui m'intéresse dans la lecture de dans la lecture d'œuvres basées sur un imaginaire, parce que au fond, je pense que tout ça répond à des envies tout à fait contemporaines, à des fantasmes tout à fait contemporains. Que l'utilisation de l'histoire, c'est jamais anodin, c'est jamais innocent. On se ramène toujours, si on se ramène à une époque, c'est qu'on pense qu'elle a quelque chose à dire, quelque chose qui nous parle maintenant, qu'elle répond à une insatisfaction de l'époque actuelle. Enfin, plein de choses. Hein. Je veux pas faire des clichés, des interprétations simplistes. Je pense que je veux dire, là, je pourrais parler de Tolkien aussi sur son travail là-dessus, enfin, mais, ou de Ward, ou pourquoi un type au Texas dans les années 20 se met à rêver d'histoire antique, de guerre romaine, de celtes et de pictes. Enfin, chez Howard, il y a des réponses, voilà. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, que ce soit chez Howard, chez Tolkien, chez Pevel ou chez Lionel Davout ou Mathieu Gaborit.
Oui, pour prolonger ce que dit Laurent, il y a quelque chose auquel je suis très sensible, ça a été le bouquin Écriture de Stephen King, où il a parlé du fossile, et c'est vrai que c'est une réalité tangible que j'ai éprouvée à plusieurs reprises, et même physiquement, c'est-à-dire que je me mettais à trembler.
Tu peux rappeler le titre du bouquin, d'habitude je le fais, mais là
c'est Écriture, je crois, sans faire d'erreur, Stephen King. Et,
Très précieux.
Et c'est très intéressant parce qu'il dit ça, c'est-à-dire qu'il dit en fait, c'est quasiment comme si l'idée vous préexistait, ou du moins comme si vous étiez en mesure de la déterrer dans votre inconscient. C'est mon interprétation que je fais hein, aussi de sa théorie, mais moi c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que à compter du moment où tout d'un coup vous intéressez à un thème donné, ou que vous percevez une réalité, la réalité d'un roman, vous vous dites ça mérite une histoire, ça veut déjà dire que quelque part dans votre inconscient, ce fossile existe. Et moi, je le vis vraiment devant la feuille, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je commence à chercher autour du concept, je tâtonne, etc., j'explore plein de choses, mais au final, l'inconscient, et ça rejoint ce que vous dites tous en fait, c'est-à-dire au-delà même de ce fun factor dont vous parlez, je pense qu'il y a un vrai plaisir, une vraie sensibilité mais profonde et limpide sur le plaisir de l'imaginaire. Et cet imaginaire là il est profondément inconscient, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il est en retrait, qu'il faut le faire venir, qu'il faut l'accompagner, qu'il faut l'extraire, même parfois le vomir. Mais je le trouve tellement précieux à notre époque, en particulier aujourd'hui, que c'est à ce moment-là, en fait, que même à travers la fantaisie, à travers l'imaginaire, vous parlez de vous. Et vous, ça veut dire un vrai regard quoi, sur cette fantaisie. Moi, c'est ce que je vis tous les jours quand je vais au café pour écrire. C'est que moi je fais partie des auteurs qui écrivent à l'instinct, c'est-à-dire que je fais très peu de plans, pour le pire et pour le meilleur, j'essaie vraiment d'être entraîné par mes personnages, et c'est à eux que je laisse la parole, entre guillemets, puisque bon, Fabrice Collin serait là, il hurlerait, parce que lui est plutôt, plutôt du côté du démiurge, mais moi je trouve ça très important en fait d'avoir cette espèce de côté débridé de l'imaginaire. Même toi Pierre, je sais que tu travailles, tu es assez ciselé dans ton approche du roman, donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que toutes les approches de l'imaginaire, ciselées ou pas ciselées, instinctives ou pas, font qu'au final ton bouquin parle de toi, Laurent, tes bouquins parlent de toi aussi, Lionel, c'est la même chose, et c'est ça que je trouve essentiel. Et trop souvent, on a parlé de l'histoire, trop souvent je trouve que les gens s'effacent derrière une histoire presque pas collective mais finalement transparente, parce que vous n'êtes pas là derrière les lignes, derrière les personnages, etc. Et si, pour peu que vous ayez une vraie sensibilité à l'imaginaire, si elle s'exprime, si elle est visible, si elle est tangible, si elle est sensible vraiment, c'est-à-dire qu'elle parle de votre cœur, de votre imaginaire, de vos rêves, et qu'elle fait sens, c'est-à-dire qu'elle a une histoire aussi, qu'elle a des péripéties, qu'elle avance, c'est-à-dire qu'elle prend pas le lecteur pour un con. Moi, je trouve que il faut surtout pas nier cet aspect poétique de l'imaginaire qui est en chacun de nous et qu'il faut savoir exprimer. C'est fondamental.
T'en fais pas, il y a des gens qui le nient très bien. Enfin, je veux dire, on peut parfaitement faire des bouquins, des séries avec où on a vaguement vu le fossile, et puis après, parce qu'on a du métier, on peut construire 4 tomes d'aventure de 600 à 1000 pages chacun. Par exemple, je sais pas moi, les bouquins de George R. R. Martin sur le trône de fer, ça me fait cet effet-là, c'est-à-dire Il y a quelques idées, il y a des trucs sympas, et puis après, hop, la machine scénaristique se met en place, et c'est Dallas avec des chevaliers, quoi. Et puis, au bout de 300 pages, ça m'intéresse plus, mais voilà. Heureusement, il existe d'autres voies que celles que tu décris.
Je vais vous poser une autre question. Là, on va totalement changer de direction de ce débat, parce qu'il y a une petite question. Qui s'impose un peu là actuellement, puisque il y a deux personnes qui ont écrit de la, bon, ce qu'on va appeler de la fantasy, hein, même si y a marqué thriller ésotérique sur la couverture du livre de Lionel Davoust, mais nous on sait tous que c'est de la fantasy, et de toute façon t'en as toujours parlé comme d'un bouquin de fantasy dans le sérail aux copains et tout, donc nous on le sait. Ça vous tente pas, enfin non, excusez-moi, c'est pas ça vous tente pas. Comment expliquez-vous que ce soit difficile d'écrire de la fantasy dans toute sa pureté, avec la magie, voir les dragons et tout, à l'époque contemporaine ? Il y en a. Il y a quelques romans de fantasy, on peut parler de urban fantasy, des choses comme ça, mais il y en a assez peu. Alors là, moi je suis un peu. Je m'interroge, la fantasy. Enfin, quel est le protocole du vraisemblable dans un texte qui fasse que tout d'un coup on ne puisse pas parler de dragons et de magie aujourd'hui, alors que certains le font manifestement. Dans des romans tout à fait actuels, je sais pas ça. Est-ce que quelqu'un a compris ma question d'abord ?
Je suis pas entièrement sûr.
en fait, la question c'est est-ce qu'il y a une incompatibilité ? Oui, c'est vrai que parfois c'est tortueux. Est-ce qu'il y a une incompatibilité d'essence d'écrire de la fantasy dans le monde contemporain ? C'était tellement simple à dire.
Je pense tout simplement, dans toute fiction, il y a une exigence de vraisemblance qui se repose dans la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, sur ce qu'on appelle, qui est un concept, ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire que quand on entre dans un récit fictif, il faut que le lecteur puisse y croire. C'est quand même tout l'intérêt du jeu de la fiction. C'est-à-dire, je lis une histoire, je sais pertinemment qu'elle n'a pas eu lieu puisque c'est de la fiction. C'est quand même le but de la manœuvre. Mais il faut que je puisse y croire. Donc, si je raconte qu'il y a des dragons dans le ciel de novembre 2011 et qu'il y a des types en trench coat qui se balancent des sorts et des boules de feu dans les rues, on sort tous dans les rues en novembre 2011 et on sait que ce n'est pas le cas.
Donc... Oui, mais attends, alors là, moi, je t'arrête tout de suite. Quand Naomi Novik nous raconte les guerres napoléoniennes avec l'armée de l'air montée sur dragon, oui. quand Xavier Mauméjean nous refait la Deuxième Guerre mondiale avec les kamikazes montés
oui,
sur
mais
dragon...
Oui, mais tu es...
Novik,
tu es dans...
c'est nul. Pardon, mais...
Oui, mais elle le fait.
tu es déjà dans un contexte qui est antérieur et qui est historique et qui commence... Déjà la Seconde Guerre mondiale, puisque les générations s'éteignent, on parle de la troisième génération pour la mémoire. On voit d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a un truc qui est assez criant là-dedans, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, qui est quand même quelque chose d'extrêmement récent, commence à être fantasmée, notamment à travers un média comme le jeu vidéo. Et on entre progressivement, cette époque-là commence à... Malheureusement malheureusement pour moi, pour tout un tas de raisons, mais entre dans le domaine de l'inconscient collectif et du fantasmé, c'est-à-dire ce n'est plus de l'histoire immédiate. Donc
ce n'est plus seulement
de l'histoire immédiate. Donc pour moi, on peut effectivement réécrire cette histoire-là, mais il faut qu'elle commence à faire partie de quelque chose qui commence à être distant, pour qu'on puisse le réécrire, le recréer et s'approprier ce matériel-là pour qu'il commence à y avoir une forme de distance. Donc à partir du moment où tu veux commencer à parler de dragons, de mecs qui se balancent des boules de feu dans les rues de Nantes devant la Cité des Congrès des Utopiales, ça va être compliqué parce qu'il y a cette espèce de suspension d'incrédulité qui va être d'autant plus difficile à franchir. Pour moi, c'est juste là, tout revient au devoir de vraisemblance que la fiction doit avoir, et il y a une espèce de barrière. Moi, je l'ai assez senti d'ailleurs en travaillant sur Léviathan, donc qui a toute l'allure du thriller, mais il y a à un moment une faille qui fait que effectivement la magie et donc quelque chose qui relève plus de la fantaisie urbaine vient s'installer. On se rend pas compte, en tout cas moi très humblement c'est mon expérience, on se rend pas compte quand on lit de l'imaginaire qu'on est prêt à faire tout un tas de jeux intellectuels qui ne sont absolument pas évidents pour le lecteur de littérature générale. C'est-à-dire, si j'ouvre un bouquin de fantasy ou un bouquin de SF, ça m'avait notamment frappé chez Omal de Laurent Genefort, qui est un excellent bouquin de Space Op, mais on a trois ethnies, donc on a les humains et on a les Chiles et les Hodkins, Et on a notamment ces deux races extraterrestres qui sont, je ne sais plus laquelle des deux, mais est extrêmement étrange pour nous. Et en fait, le livre s'ouvre sur du point de vue de la plus étrange des trois. Et en fait, on est catapulté dans ce monde-là, qui, dans la tête de cet extraterrestre qui est extrêmement étranger, alien pour nous. Mais le lecteur d'imaginaire va jouer ce jeu-là parce qu'il est habitué à rentrer dans un texte en ne comprenant pas le vocabulaire, en ne comprenant pas l'imaginaire, mais il sait parce qu'il a l'habitude.
En ne comprenant pas immédiatement.
En ne comprenant pas immédiatement. Ça
arrive peu à peu quand même.
Voilà. Mais on a ce jeu-là parce qu'on a l'habitude en tant que lecteur d'imaginaire de dire je vais rentrer dans cette histoire-là. Je sais que je ne vais pas tout comprendre de base, mais je sais que le sens va se résoudre, que le sens va émerger du texte et que je vais comprendre le vocabulaire et que je vais rentrer dans cette civilisation-là qui est différente. C'est quelque chose. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire en littérature générale, où il faut une espèce de fondation et de base de vraisemblance.
Ça c'est clair.
Voilà. Mais
le roman contemporain, c'est un projet de littérature réaliste. Mais voilà. Pourquoi dans les genres de l'imaginaire, on le ferait pas ? Si on réfléchit bien, je vais encore citer plein de trucs que Laurent va adorer. Quand on regarde actuellement la bande dessinée ou le cinéma, grand spectacle américain, truffé de super-héros au vu et au su de tout le monde, ça se passe aujourd'hui. Alors que c'est complètement invraisemblable.
C'est de la fantasy, ça se finit à notre époque.
Ouais. Hein. J'ai des gamins en âge de voir ça, donc je vais voir les Transformers avec eux. Je sais, j'ai même pas honte là. C'est totalement nul, je suis d'accord. Tout le monde en est conscient. Mais en attendant, ça se passe aujourd'hui. Moi, j'ai été stupéfait quand j'ai vu Transformers 2 et Transformers 3 dès le début du film, parce que ça a foutu en l'air tout le vraisemblable, donc on ne peut plus y croire une seconde, de voir tout d'un coup, à partir du 2, les robots Transformers qui se baladent comme ça, quasi au vu et au su de tout le monde. Donc tout d'un coup, on est dans quelle vraisemblance ?
Alors, j'avoue que je n'ai pas vu, mais je pense que dans le 1, de ce que j'ai cru voir dans la bande-annonce... Ces films-là, malheureusement, quand on a vu la bande-annonce, en général, on a un peu tout vu. Donc, il y a un glissement. Il y a forcément un glissement qui s'opère à un moment. Le monde des super-héros, effectivement, ils se baladent quand même pas tous au vu et au su de tous. Batman, il opère dans le secret.
Les actions qu'il mène sont au vu et au su de tout le monde. Il y a même le commissaire machin qui envoie
Là, en l'occurrence, je suis pas sûr que Batman se passe vraiment dans notre monde, en fait. Donc,
je fais la mouche du col, bien sûr.
Batman, ça se passe dans le monde de Batman, et les Transformers, ça se passe dans le monde des Transformers. Ce qui est intéressant, moi, les Transformers, je l'ai pas vu, mais je vais pas faire semblant d'avoir vu. Mais j'ai joué avec des robots transformables quand j'étais gamin, et je sais très bien à quel fantasme ça répond. Ça répond à un espèce de le fantasme de la machine, du robot, du jouet. C'est une histoire de jouet, les Transformers. Et les histoires de super-héros, je suis pas du tout spécialiste, mais je sais qu'il en existe de très bonnes exégèses. Enfin, je pense ne serait-ce qu'au Watchmen, si on veut rester purement dans la fiction, voilà.
Et de qualité.
Et de la fiction pour de qualité. Mais voilà, donc je sais qu'il est. Mais tout ça, enfin, pour moi, ça se justifie totalement. La raison pour laquelle les gens y croient, la raison pour laquelle ça marche, c'est qu'au fond, ça dit des choses vraies. Ça répond à un besoin, ça répond à un fantasme, ça répond à un appel. La raison, on peut faire des choses, raconter des histoires où il se passe des choses extraordinaires dans les rues de nos jours. Je ne sais pas si vous avez en tête le final de Paprika de Satoshi Kon, où des jouets et des produits publicitaires et des choses comme ça complètement délirantes sortent dans les rues de Tokyo et commencent à. Et où il y a un robot en plastique de gamin qui tire des fusées par la poitrine et qui a le visage d'un informaticien qui se met à... Voilà, enfin, là, on est dans un espèce de truc. Si je le raconte comme ça, ça paraît être un délire complet. Ça paraît dire absurde, c'est quoi cette histoire ?
Pardon.
Il y a aussi des gens à qui ça parle immédiatement, naturellement, mais ils ne sont pas obligatoirement comme nous. Et en fait, dans l'histoire, de toute façon, on voit très bien que la mécanique, enfin que la logique de l'histoire, que ce que ça dit des tas de choses sur le monde, sur le Japon contemporain, sur la société de consommation, sur des tas de choses. Enfin, on voit bien que ça parle de choses totalement vraies. Et en réalité, dans cette histoire, c'est vrai. Enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de suspension of disbelief, qu'il n'y a pas de... Parce qu'il n'est pas du tout en train, justement, la raison pour laquelle tu dis pourquoi on ne met pas des dragons dans les rues de Nantes, parce que c'est idiot. Je veux dire, voilà.
J'ai pas dit que c'était idiot. J'ai dit que ça serait difficile à faire passer en entrée.
Ce serait difficile à faire passer parce que l'idée de base, si c'est mettre des dragons pour mettre des dragons, c'est stupide. Pardon. Si c'est par contre pour répondre à quelque chose, c'est pour raconter quelque chose. Pour revenir à ce que disait Pierre, si c'est pour être en train de raconter une histoire, et là, on rejoint effectivement l'intérêt de l'histoire. Là, soudain, ça pourrait prendre du sens.
Oui, bon. Et il n'y a pas de raison de ne pas, de fait.
Pas pour ça.
Je pense quand même que dans le registre de la fantasy, il y a une thématique qui est assez importante, c'est celle de l'ailleurs quand même. Donc peut-être que déjà le fait de situer ça dans notre monde contemporain, c'est pas assez ailleurs, tout simplement, aussi bien au niveau géographique que temporel. Il y a peut-être aussi un élément d'explication, c'est que, en tout cas, moi, si je projette à partir de la manière dont j'essaye de travailler, moi, j'essaye de faire beaucoup appel à l'imaginaire collectif, plutôt qu'à un inconscient collectif, donc à l'imaginaire collectif. Conférer bon, les lames, ou alors vraiment en Brumaire, quand je disais que j'avais pas voulu faire trop de recherches parce que je voulais rester à la surface des choses, au folklore, en espérant justement choper ça chez le lecteur aussi. Je me dis, si c'est l'idée que j'en ai, même peut-être caricaturale, il est assez probable que d'autres aient et ça aussi.
Ça fait donc, des descriptions plus courtes.
En plus, oui, ça peut faire des économies de description. Mais bon, plus sérieusement, vraiment, c'est le fait de toucher l'imaginaire du collectif. Or, l'époque contemporaine, elle ne relève pas de l'imaginaire collectif. Ou alors plus difficilement, ou alors de manière peut-être moins consensuelle, en fait. Oui. Donc, y a peut-être encore trop d'imaginaire collectif pour l'époque contemporaine pour que ce processus fonctionne. Mais c'est vraiment qu'un élément d'explication, je ne sais pas trop. En tout cas, je sais que moi, a priori, je ne serais pas super tenté par faire un truc contemporain, quoi. Là, d'instinct, quoi. Mais c'est peut-être une forme de paresse, c'est peut-être parce que je... Une facilité, je ne sais pas.
Oui, enfin...
C'est très dur de choper l'imaginaire collectif de l'époque contemporaine. Effectivement, pour l'histoire, on a déjà des romans historiques, on a déjà une décantation qui a eu lieu, on a déjà des choses dans lesquelles on peut s'installer. Oui, c'est attrapé. C'est pour ça que Satoshi Kon est génial, accessoirement. Parce que c'est quelqu'un qui arrive à capturer des choses d'une forme d'inconscient collectif contemporain. Pour moi, c'est des propositions. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. On prend ou on prend pas. Mais là, on a quelque chose. Enfin, des gens capables de capturer quelque chose de commun qui soit pourtant pas une description réelle de, je sais pas moi, des réseaux sociaux ou de la vie sur Internet ou j'en sais rien. Ça, c'est dur. C'est vraiment très dur. Et effectivement, c'est beaucoup plus casse-gueule.
C'est étonnant parce que, en fait, là où je voulais en venir, c'est que le polar le fait, en réalité. Il y a pas mal d'auteurs... alors après, j'appelle ça polar au sens général du terme, parce qu'on peut aussi parler de fantastique, de thriller ésotérique et tout, mais il y a pas mal d'auteurs qui le font, qui font une réinterprétation de l'histoire contemporaine, y compris des époques très proches et même tout à fait actuelles, à travers leur regard à eux, sous prétexte soit de polar, soit un peu de théorie complotiste et autres. Comment il s'appelle l'auteur du Dahlia Noir ? Zut, ça m'échappe. Elroy, oui, pardon. James Elroy le fait dans les L.A. Confidential et autres. Les puissances de l'invisible tient de Timothy Powers. On peut même citer Galilée de Clive Barker. Enfin, je peux vous en citer un certain nombre comme ça. Et puis, c'est un peu ce que tu fais dans Léviathan. Tout d'un coup, on est dans cette réinterprétation de l'histoire contemporaine.
Enfin, personnellement, moi, je trouve ça absolument passionnant aujourd'hui de se pencher là-dessus. C'est vrai qu'on est... là, on a parlé d'une fantaisie... évidente quand on dit dragon, boule de feu, etc.
Échiquier du mal aussi.
Mais oui, pour autant, je trouve que l'époque contemporaine a une puissance évocatrice aujourd'hui, moi, en termes d'imaginaire, qui est totale. Actuellement, je bosse. C'est intéressant parce que moi, ça fait 15 ans que je bosse beaucoup sur l'heroic fantasy. Et aujourd'hui, par exemple, le temps de l'innocence étant fini, je vais vers l'anticipation et je suis précisément dans un. J'essaye de réenchanter cette époque contemporaine, parce que pour moi, tout a à voir avec ce réenchantement. Un exemple très simple, j'ai un personnage, par exemple, qui est une espèce de banshee moderne des autoroutes, qui vit sur un royaume de l'asphalte, et qui est faite de tôles froissées, une espèce de créature un peu étrange, comme ça, dans le sillage même des autobahns allemands, donc ça se passe au début en Allemagne. Et là, je trouve que je suis... précisément en train d'essayer de m'interroger sur le fantastique au cœur du contemporain. Là, je suis sur quelque chose de très factuel qui n'a aucun intérêt, enfin qui n'est pas une histoire, mais pour autant, moi je trouve que cette époque-là, aujourd'hui, ça rejoint ce que dit Pierre, c'est-à-dire à un moment, c'est vrai que dire il y a des dragons à Sarcelles, c'est pas quelque chose qui tout de suite vous parle. Par contre, vous me dites il y a un dragon dans le ciel de Tokyo, déjà il y a autre chose qui se passe. Donc il y a quand même aussi un facteur culturel, important, un regard culturel qui se twiste, qui se réinvente et qui est, à mon avis, joue encore une fois sur l'imaginaire ou l'inconscient collectif. Mais pour moi, des villes comme Tokyo, des New York, même des Rio, même des Shanghai, sont des villes qui ont une puissance aujourd'hui imaginaire qu'on peut travailler comme un vrai matériau.
Tout à fait. Lionel, peut-être, je te sens...
Oui, non, moi, je sur la difficulté de se brancher sur l'époque, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mathieu. Et y a des tas, on trouve des tas d'exemples, des vocations comme ça. Il y avait Highlander qui avait été évoqué. Avec quoi il se bat ? Il a un katana. Bon, on retrouve un peu le cool factor. Non, sur la difficulté de se brancher sur l'inconscient collectif, moi, j'ai une attitude qui est à la fois très humble et peut-être très mégalo. En même temps, c'est que
tout ton portrait.
Voilà. Je me dis que je fais de facto partie de l'époque de toute façon, et que je cherche pas à me brancher vraiment ou à essayer de réfléchir, à essayer de réinterpréter cet imaginaire aujourd'hui. Je me dis juste, je fais forcément de facto partie de l'époque. Je suis, même si j'essaie d'y réfléchir, je suis forcément je suis forcément un produit, au moins en partie, de ma culture et de mon époque. Donc, tout simplement, de quoi est-ce que j'ai envie de parler? Et je vais suivre cette direction-là, et ça va probablement être le reflet de quelque chose. Et je vais essayer de prendre plaisir en le faisant. Et ça peut-être. Et en même temps, il y a des envies d'aller dans une direction, de raconter une histoire. J'ai à la fois cette envie-là parce que j'ai envie de se traiter de ce thème-là, mais la façon dont je vais l'écrire va de toute façon à moi m'apprendre quelque chose.
Oui. Bon, écoutez, vu l'heure qu'il est, on peut dire que c'est la conclusion. Et que c'était le mot de la fin, un peu abrupt, mais voilà. Mais écoutez,
quel talent.
Bah ouais, t'as vu ça. Hein. Mais ils m'ont même applaudi derrière. Eh ben écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions et puis d'avoir surtout dit toutes ces choses passionnantes pour le public qui était à vous écouter. Oui, ça a été brusque, hein, là. C'est on a fait un atterrissage non contrôlé. Je vous invite maintenant à aller dans l'espace dédicace, retrouver nos auteurs qui seront là à un moment ou un autre, j'ai pas votre planning en tête, pour non seulement demander des dédicaces, mais surtout acheter et lire avec gourmandise les romans de ces quatre auteurs, dont vous verrez que les qualités de